Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
À suivre, durant les 20 prochaines minutes, notre débat sur la mendicité des enfants talibés, un phénomène qui concerne, vous le savez, de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal, où des milliers d'enfants envoyés dans les écoles coraniques sont en fait exploités par des marabouts véreux qui obligent leurs élèves à mendier toute la journée, alors que ces enfants sont censés être à l'école et recevoir une éducation religieuse. En tout cas, pour lutter contre ce fléau, le Sénégal s'est doté d'une loi interdisant la mendicité forcé, c'était en 2005, mais 10 ans plus tard, le bilan est alarmant. Rien que dans la région de Dakar, plus de 30 000 talibés sont soumis à cette pratique. Et d'ailleurs, selon un rapport publié ces jours-ci par Human Rights Watch, les enfants qui ne rapportent pas suffisamment d'argent sont régulièrement battus avec des fouets en caoutchouc ou des morceaux de bois. Aucun des enfants interrogés par l'organisation n'a reçu le moindre soin médical, d'où ce constat dressé par l'ONG. Les autorités sénégalaises ont failli à leur responsabilité. Alors pourquoi la loi n'est-elle pas appliquée? Comment mettre un terme à cette exploitation? Et quelle est l'ampleur de ce fléau dans votre pays, vous qui nous écoutez en Afrique de l'Ouest? On vous attend évidemment au standard. Vos témoignages 33 9 693 693 70. Vous continuez à nous poster vos messages sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai quelques-uns tout à l'heure pour alimenter la réflexion. D'abord Sophie qui nous appelle de Saint-Louis au Sénégal. Bonjour Sophie.
Oui, bonjour Juan, bonjour tout le monde.
Alors vous avez un témoignage, vous dites que dans votre ville à Saint-Louis, le phénomène empire d'année en année.
Oui, il y a de plus en plus d'enfants, et surtout d'enfants en bas âge. Vous avez parlé de 5 ans, à partir de 5 ans, mais je pense qu'il y a des enfants qui ont 3 ou 4 ans, et qui mendient, et qui sont dans un état tel que vous l'avez écrit, c'est-à-dire en haillons, très sales, malades, avec la gale, des plaques sur la tête, des yeux abîmés, malades. Et ces enfants mendient sur la place publique, en plein Saint-Louis. Tout le monde peut les voir.
Et ce sont
extrêmement nombreux.
Et ce sont des enfants qui sont censés être dans une école coranique?
Oui, ce sont des enfants qui, le soir, très tard, rentrent dans chez leur marabout, leur dara, et qui sont censés apprendre le Coran. Ces enfants viennent de la campagne, du fleuve, de la vallée du fleuve, sont amenés là chez des marabouts. Les parents les laissent en pensant que ces enfants vont apprendre le Coran. Et en réalité, ces marabouts véreux, comme vous les appelez, Juan, malhonnêtes, exploitent ces enfants pour en retirer un bénéfice.
Enfin, il y a la responsabilité des parents, personne n'est dupe, tout le monde connaît ce phénomène au Sénégal aujourd'hui, ce n'est pas le premier rapport qui est publié sur cette question. Les parents ferment les yeux?
Bien sûr. Je pense que les parents font confiance aux marabouts. Les parents ne sont pas là, les parents ne sont pas présents, les parents habitent la campagne, les parents laissent les enfants chez le marabout en pensant que le marabout va les nourrir, les soigner et leur apprendre, les éduquer également.
Ouais. Je faisais référence à cette loi qui fête tout de même cette année ses 10 ans. Comment se fait-il qu'elle ne soit toujours pas appliquée alors que tout le monde se souvient, en tout cas au Sénégal, de ce drame qui avait ému tout le pays, une école coranique qui avait pris feu il y a 2 ans. Les autorités avaient dit à l'époque on va définitivement réglementer les écoles coraniques, on va définitivement mettre fin à la mendicité des enfants talibés, et rien n'est fait.
Oui, alors la responsabilité, moi je pense qu'elle vient quand même des autorités. Il y a des collectifs, il y a des organisations qui luttent contre la mendicité des enfants. En particulier, j'ai une amie sur Dakar, Louis Gabert, qui a créé un collectif qui s'appelle Doina Stop à la mendicité, qui a d'ailleurs écrit il y a 2 jours une lettre ouverte à Monsieur le Président. Concrètement, je dois dire qu'il y a eu, il y a 15 jours à Saint-Louis, au tribunal, un procès contre un marabout qui, bien sûr, tyrannisait les enfants. Et c'est la première fois qu'un marabout est jugé. Il a, Il a eu 6 mois de prison.
Ouais. Six mois de prison, effectivement, avec sursis ou ferme?
Je ne sais plus.
Parce que très souvent, malheureusement, les condamnations sont quelques mois de prison et généralement avec sursis. Merci beaucoup, Sophie, de cette réaction. Je vous le disais sur la page Facebook de l'émission, il y a beaucoup de commentaires. Eladj qui constate que cette loi n'a jamais été appliquée au Sénégal. Elle n'existe que sur le papier. Les autorités refusent de se prononcer sur cette question car elles ne veulent pas perdre des électeurs. Faudrait qu'on m'explique, effectivement, quel est le lien entre les électeurs et le laisser aller des autorités sur cette question. Réaction de Pexon qui nous dit: envoyer un enfant dans la rue pour mendier n'est ni culture ni religion, mais c'est de l'esclavage. Alassane estime que le problème du Sénégal, c'est que les marabouts sont au-dessus des institutions, c'est pourquoi cette loi est bafouée. Bonjour Noël.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Tamakunda, vous êtes dans l'est du Sénégal. Vous avez un témoignage, puisque vous êtes le principal d'un collège dans cette ville, et vous constatez que chaque année, il y a des parents qui retirent leurs enfants de votre collège pour les inscrire dans des écoles coraniques.
Oui, et chaque année, nous parlons comme ça, chaque année, des enfants, on retire des enfants, 4 à 5, chaque année, malgré les efforts que nous faisons. Malgré la sensibilisation, malgré les fourreaux, ils sont obligés, les parents, à mettre leurs enfants. Et malheureusement, les enfants les retrouvent encore quelques jours après dans la rue.
Ah oui.
En train de demander l'aumône. C'est dommage.
Le réseau téléphone, Noël, n'est pas très bon. Je suis désolé, on va essayer de vous rappeler sur un autre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous entendre et avoir votre réflexion en tant que responsable d'un collège à Tabankunda. Mohamed, lui, est à Ouagadougou. Bonjour Mohamed.
Bonjour Juan, bonjour RFI.
Et j'ai écorché votre prénom, c'est Mohamedou. Vous êtes à Ouaga, dans la capitale du Burkina. Sur la page Facebook de l'émission, on a un auditeur qui nous dit, au Burkina Faso, le phénomène existe, mais dans une moindre mesure. Et vous disiez, au Standard, il y a quelques minutes, que le Burkina a pris le taureau par les cornes, puisque le pays a décidé de réglementer les écoles coraniques.
Tout à fait, parce que pour endiguer le problème, il faut d'abord savoir quelle est son ampleur. Donc en 2013, il y a eu une étude qui a révélé qu'il y avait plus de 7500 foyers coraniques au Burkina.
Combien ?
Avec environ un effectif de 7500 foyers coraniques.
D'accord.
7500. Mmh. Et l'effectif des enfants, c'est autour de 139 000.
Ah oui.
Donc, à partir de cette étude déjà, on a une cartographie sur tout le Burkina, qui permet au ministère de l'éducation de base, avec les associations islamiques, de pouvoir tenter de régler le problème. Donc, cela passe d'abord par la connaissance du phénomène, des effectifs, mais aussi essayer d'intégrer ces foyers coraniques-là dans le système éducatif conventionnel.
Ah oui.
Donc, il y a la réforme de l'éducation de base qui a été initiée depuis quelques années. On tend à intégrer ces foyers coraniques-là de sorte que les enfants des écoles coraniques puissent apprendre également les programmes qui sont dispensés dans les écoles primaires conventionnelles.
Mmh.
Tout ceci pour que lorsque les enfants sortent, ils puissent avoir une occupation dans la vie active.
Ouais. C'est d'ailleurs ce que demande Human Rights Watch au Sénégal, qui préconise depuis des années que toutes les écoles coraniques soient agréées et qu'elles fassent l'objet d'inspections régulières par des agents de l'État, qu'on surveille concrètement l'enseignement dans ces écoles coraniques. Et évidemment, il ne faut pas généraliser, il ne faut pas dire que toutes les écoles coraniques du Sénégal maltraitent les enfants. En tout cas, il y a un chiffre qui est quand même assez révélateur de l'état des lieux. Ce sont des chiffres officiels. Il y a 1000 écoles coraniques dans la région de Dakar. Ces 1000 écoles accueillent à peu près 54 000 élèves. Et sur ces 54 000 élèves, 30 000 sont forcés de mendier pendant plusieurs heures par jour. C'est-à-dire la très grande majorité de ces enfants. Mohamedou, est-ce que malgré tout, vous continuez à voir à Ouagadougou des jeunes talibés mendier ? Malgré la loi qui existe au Burkina.
Il faut dire que sur le Burkina, il faut faire la part des choses entre les talibés et puis les enfants de la rue. Les enfants de la rue, on en rencontre, mais les gens font l'amalgame entre les enfants de la rue et puis les talibés. Ma conception, c'est que ceux que l'on rencontre dans les rues de Ouagadougou ne sont pas tant des salivés que des enfants de la rue dont les parents ont laissé la gestion à certains délinquants. Et ça, c'est malheureux, mais je ne pense pas que sur la ville de Ouagadougou, en tout cas, on rencontre des talibés au sens strict du terme.
Ouais. Yannick voilà. Nous dit sur Facebook, à Ziguinchor, au Sénégal, il y a de plus en plus d'enfants qui mendient dans la rue. Ils viennent principalement de Guinée, où des réseaux de passeurs en font un commerce. Le président Macky Sall est venu en Casamance il y a quelques semaines, et curieusement, on ne les a pas vus durant son séjour. Merci en tout cas à Mohamedou de votre témoignage de Ouagadougou. On reste dans la sous-région à Bamako. Adiaratou est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Et vous aussi, vous constatez l'ampleur que prend ce phénomène dans les rues de la capitale malienne.
Oui. En fait, Juan, de jour en jour, le nombre d'enfants talibés, mais surtout de petits délinquants, s'accroît dans la ville de Bamako. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Mahamadou, il y a un amalgame. Il y a certes des talibés, mais il y a des enfants qui sont en rupture totale avec leur famille, qui se confondent en talibés pour aller mendier dans la rue.
Oui.
Parce que généralement, pour avoir de l'argent avec les gens, ils sont obligés de réciter des incantations du Coran et les gens les attribuent directement à des enfants talibés alors qu'ils n'en sont pas.
D'accord. Effectivement. Donc, c'est un moyen pour eux. Ils se font passer pour des enfants talibés pour essayer de faire l'aumône et que les croyants leur donnent quelques pièces. Merci Adiaratou de ce témoignage. 33 9 693 693 70. Djibril nous appelle de Dakar. Bonjour Djibril.
Bonjour Juan.
Oui, on vous écoute. Soyez le bienvenu.
Oui, je vous remercie de cette opportunité que vous me donnez, parce que ce phénomène dont vous parlez, qui est un fléau aujourd'hui en Afrique, ben je pense qu'il est temps quand même que les différents gouvernements qui passent y mettent fin. Aujourd'hui, quand on quitte sa maison et qu'on roule dans les rues de Dakar, c'est vraiment désolant. Mmh. Et ça fait piquer, hein, de voir des enfants de 4 ans, de 5 ans, dans la rue, entre les voitures, dans des positions très dangereuses même. Alors qu'on a nos enfants, nous, dans nos voitures, ça donne les larmes aux yeux. Et il faut que les politiques prennent leurs responsabilités et appliquent les lois qui sont votées.
Mais pourquoi justement les politiques n'appliquent pas la loi? Je lisais tout à l'heure la réaction sur Facebook d'Alassane qui nous dit « Au Sénégal, les marabouts sont au-dessus des institutions. Ils font pression, les marabouts, justement, pour que cette loi ne soit pas respectée, selon vous ?»
Oui, mais écoutez, Juan, même si les pressions ne sont pas verbales, ne sont pas entendues, elles sont en filigrane. Les gouvernements qui arrivent et qui ne pensent qu'à leur réélection utilisent ces marabouts-là comme une masse électorale. Ils leur font des yeux doux et ils ne veulent pas personne. Mmh. Et tant qu'il y a ces façon d'être, tant qu'il y a cette conception, tant que les gouvernements qui arrivent pensent juste à leur réélection, rien ne bougera dans ces pays-là. Et ça devient un fléau et c'est grave. Ces enfants ont droit à une éducation. Il leur faut des adultes à côté. La religion ne dit pas qu'il faut mendier. La religion permet, c'est vrai, une sorte de pratique pour tuer l'orgueil en soi. Mmh. Mais ce n'est pas cette façon-là de jeter les enfants dans les rues, en faire un fonds de commerce.
Ouais.
Un enfant qui rentre avec 10 euros, avec 20 euros. Mais son marabout ne lâchera jamais cet investissement-là, il va en faire son capital.
Évidemment,
et
effectivement.
Ça, c'est la responsabilité des gouvernements.
Oui, mais là, il y a une loi qui interdit la mendicité forcée, et d'ailleurs, cette loi a été renforcée, si ma mémoire est bonne, il y a quelques années, puisque le gouvernement avait interdit tout simplement la mendicité sur la voie publique. Seul l'aumône, il me souvient que seul l'aumône était toléré devant les lieux de culte. Mais on voit bien que cette loi n'est pas du tout appliquée au quotidien. Merci Djibril, bonne journée, bon courage à vous. Réaction sur Facebook de Daouda qui nous dit les maîtres coraniques, c'est un sujet très complexe et qui a même une influence sur les décisions politiques au Sénégal. Ici, aucun homme politique n'ose s'aventurer sur ce dossier. La solution, c'est de négocier avec les maîtres coraniques qu'ils acceptent d'envoyer ses enfants à l'école après les cours coraniques. C'est-à-dire qu'il y ait d'abord des cours coraniques et ensuite que les enfants puissent aller et suivre un cursus classique. C'est ce que propose Daouda. Le témoignage d'Amadou qui nous appelle de Pointe-Noire. Bonjour.
Bonjour Monsieur Juan Gomez.
Bienvenue sur l'antenne. Vous êtes d'origine sénégalaise, vous êtes en ce moment au Congo. Et vous avez un témoignage, puisque vous-même, vous avez été dans une école coranique lorsque vous aviez 8 ans.
Oui, bien sûr. Dans les années 2004 à 2010, en effet, le problème des enfants talibés n'est pas du genre à élever les enfants à la mendicité, etc., etc., etc.
Bon, attendez. Oui, attendez, Amadou, on va essayer de vous rappeler, parce que moi, je vous entends très très mal dans mon casque, donc c'est compliqué de discuter, évidemment. On va vous rappeler dans un instant. On a rappelé Elisa. Bonjour, Elisa.
Bonjour.
On vous a rappelé parce qu'on a reçu votre courrier électronique. Je donne votre nom de famille, si vous le permettez.
Oui.
D'accord. Elisa Pellizzari, c'est bien ça, vous êtes à Turin, en Italie, et vous nous avez adressé ce matin, juste avant l'antenne, un courrier électronique. Vous êtes anthropologue et vous dirigez en Italie les éditions L'Armatan. Et ce phénomène des enfants talibés, c'est un phénomène que vous observez vous-même depuis des années au Sénégal et au Mali.
Exactement. Depuis 2011, je m'occupe de cette plaie sociale, en fait. Et par rapport aussi au témoignage précédent, je voudrais mettre en évidence deux éléments. Le premier, la nécessité, d'un point de vue de réforme, de comprendre quelle est la formation ou le manque de formation de certains marabouts qui gèrent de cette façon inacceptable leurs écoles coraniques. Donc, la question de se faire appeler marabout alors qu'on n'a rien à voir avec la religion, là il faudrait un contrôle de la part de l'État. Où sont ouvertes les écoles, qui sont les enfants qui les fréquentent, et de la part aussi des instances religieuses, je pense aux confréries, notamment au Sénégal, très puissantes, mais qui pourraient faire la part entre ceux qui ont le droit de se faire appeler marabout et ceux qui n'ont pas ce droit-là. La deuxième question revient aux enfants. J'en ai interviewé plusieurs à Dakar et aussi au Mali, à Ségou, à Bamako. Mmh. Alors la question est, qu'est-ce que le futur de ces enfants qui ont passé de l'âge de 3 à 4 ans jusqu'à l'âge de 15 ans à mendier dans les rues, à subir les violences les pires qu'on puisse imaginer? Alors, le futur de ces enfants, qu'en principe devraient être préparés par leurs marabouts à devenir de bons musulmans, de bons citoyens, de pères de famille, le futur de ces enfants, c'est de devenir de délinquants.
Oui.
Et ce seront les protagonistes de la société de demain, même pas après-demain. Demain, ils sont déjà là. Donc, enlever le futur de ces enfants, c'est-à-dire leur voler le droit à l'éducation religieuse et autres, ça signifie condamner la société de demain au Sénégal, au Mali et ailleurs.
Effectivement, non, mais vous avez raison d'insister sur ces deux points qui n'avaient pas été évoqués jusqu'à présent. Merci beaucoup Elisa Pellizzari de nous avoir contactés par courrier électronique. Merci d'écouter RFI à Turin en Italie, RFI partout dans le monde sur internet www.rfi.fr. Et pour aller sur la même réflexion que vous, on a Zulio qui nous dit sur Facebook, l'État doit identifier les vrais maîtres coraniques et ceux qui sont des imposteurs. Pathé, bonjour.
Bonjour Juan.
On va terminer avec vous rapidement, malheureusement il y a beaucoup de monde au standard. Vous êtes à Dakar et vous dites-vous qu'il faut sanctionner les familles.
Effectivement, les sanctions doivent être distribuées équitablement parce que on ne le dit pas, mais les familles sont complices. Les complices comment? Parce que je ne peux pas admettre avoir un enfant de moins de 4 ans tout en sachant que l'enfant va mendier. Le maître coranique est dans l'obligation de le faire parce qu'il n'a pas les moyens et d'accepter de donner mon enfant à ce maître coranique.
Mmh.
On ne cherche même pas à savoir où est l'enfant. Parce qu'un enfant de Fouta qui vient à Dakar, qui n'a que 4 ou 5 ans,
oui.
Où sont ses parents?
Donc vous pointez du doigt effectivement l'irresponsabilité de certains parents. Merci Pathé, je vous interromps, on aura l'occasion peut-être vendredi, si vous le souhaitez tous, de prolonger ce débat. Le vendredi, c'est la Libre Antenne, vous commentez l'actualité de votre choix. Demain, vous nous direz quelle solution l'Europe doit trouver face au drame de l'immigration qui se multiplie en Méditerranée. L'Europe qui est accusée de laxisme sur cette question. En tout cas, demain, un sommet extraordinaire réunira à Bruxelles les chefs des